Donald Trump et Vladimir Poutine se font des joutes verbales. L'un envoie et teste des nouveaux missiles. L'autre dit que plutôt que de faire ça, il ferait bien de faire la paix. Donald Trump, qui est en visite en Asie également, il participe à des réunions, notamment avec le président chinois Xi Jinping. On revient avec tout cela et sur tout cela, surtout avec Isaac Franco. Il est au micro de Jonathan Serrero.
Isaac Franco, bonjour.
Bonjour Jonathan.
Alors, avant de revenir sur cette tournée asiatique du président Trump, évoquons un instant tout de même, si vous le voulez bien, le dossier Gazaoui. Et j'ai une question, jusqu'à quand Donald Trump acceptera le petit jeu du Hamas autour de la remise des corps d'otages? Est-ce que vous pensez que le président américain finira par donner le feu vert à Israël pour agir contre l'organisation terroriste, quitte à faire capoter son plan?
Il faudra beaucoup. Il faudra une sévère infraction de la part du Hamas pour que le président américain consente à décréter le de profundis de son plan, du plan qui porte son nom. Je pense que le Hamas joue avec beaucoup de dextérité, avec la frontière de là jusqu'où il peut aller. Et à partir du moment où la température monte, la pression monte trop, eh bien, il va restituer une dépouille et puis une autre. Il joue ce jeu-là, il joue la montre avec les dépouilles. C'est son dernier bargain chip qu'il a en main. Et je pense qu'il faudra beaucoup plus que cela pour que le président américain lâche la bride aux Israéliens. Et d'ailleurs, le Hamas a clairement fait entendre aux Israéliens qu'il ne va pas leur donner une occasion de reprendre les hostilités. Maintenant, il faut voir quel est le degré d'autonomie dont bénéficient les Israéliens pour prendre une décision comme ça. Parce que le président américain a engagé tout son crédit politique dans ce plan, avec toutes ces autorités américaines qui font la navette entre Washington et Jérusalem, ou en tout cas Israël. On a vu le président, le vice-président, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, Jared Kushner, Witkoff, également le chef d'état-major qui vient jeudi. Donc ça cela montre, en tout cas, cette surprésence, cette présence extrêmement fréquente et nombreuse et des autorités les plus élevées aux États-Unis montre combien ils tiennent à ce que ce plan porte ses fruits. Maintenant, il n'est pas à écarter totalement que, eh bien, il y ait un moment où les Américains se rendent compte eux aussi que, eh bien, qu'il ne sera pas possible de désarmer le Hamas, qui répète d'ailleurs à l'envi qu'il n'entend pas le faire, de démanteler son arsenal, et que la seule autorité qui dispose des moyens et de la volonté de le faire, d'arriver au bout du problème, c'est naturellement l'armée israélienne. Je rappelle qu'il y a seulement une quinzaine de jours, eh bien, l'armée israélienne contrôlait 75% de la bande de Gaza, était déjà dans les faubourgs de la ville de Gaza et était en train d'achever la destruction de ce qui restait de la des unités des miliciens du Hamas. Donc, je peux pas répondre à cette question. Il y a un tel politique, il a manifesté une telle
un tel engagement,
oui, personnel, dans ce plan, qu'il faudra beaucoup pour qu'il consente aux Israéliens de considérer que oui, en effet, ça ne va absolument nulle part, de réaliser qu'en réalité, les pays qui ont approuvé ce plan, je pense aux pays musulmans et ou arabes, eh bien, ont des agendas fondamentalement différents. Si vous prenez la Turquie et le Qatar d'une part, ben, ils ont un agenda particulier puisqu'ils sont alliés avec les frères musulmans. Et de l'autre côté, vous avez d'autres pays, arabes et ou musulmans d'ailleurs. Je pense à l'Égypte, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, à l'Arabie saoudite, à l'Azerbaïdjan, qui considèrent que les frères musulmans sont un adversaire résolu et un danger pour leur propre stabilité. Donc, comment est-ce qu'on va faire coexister ces deux approches, ces deux agendas qui sont fondamentalement différents? J'ai du mal à l'imaginer. D'autant plus de mal que le
président...
Oui, pardon.
Justement, Isaac, sur le dossier Gazaoui, on a vu Donald Trump s'engager comme jamais, mettre fin à cette guerre, ou en tous les cas à faire taire le bruit des armes. En revanche, sur le front russo-ukrainien, malgré les menaces, le président américain semble sans solution aujourd'hui. La diplomatie est au point mort et Vladimir Poutine teste ses nouveaux jouets de défense. Là aussi, on a l'impression que chacun des acteurs teste quelque peu les limites des États-Unis et semble jouer la montre avant soit la résolution pacifique du conflit ou bien un embrasement qui pourrait s'annoncer quelque peu dévastateur.
Mais il faut s'entendre sur ce que c'est que la résolution pacifique de ce conflit. Si on entend par résolution pacifique la fin de la présence russe sur le territoire ukrainien, cette guerre ne prendra jamais fin. Il est évident que les Russes continueront leur avancée aussi longtemps que Zelensky ne consentira pas à abandonner la souveraineté sur les quatre oblasts et sur la Crimée. Ce que je peux parfaitement concevoir d'être difficile à concéder et même indécent à demander. Mais bon, les résultats de 3 ans et demi de guerre sont là. Les Russes avancent certes petit à petit, très lentement, mais néanmoins, je ne vois pas comment les Ukrainiens, sans une aide décisive militaire des Américains qui permettrait aux Ukrainiens de porter la guerre sur le territoire russe, je ne vois pas comment on peut inverser le cours de la guerre. Et personne ne se risquera à porter la guerre de façon décisive sur le territoire russe. On l'a vu avec le refus de Donald Trump d'accorder de vendre des Tomahawks aux Européens pour qu'ils les confient aux Ukrainiens. Donc j'ai du mal à imaginer comment cette guerre peut se terminer, sauf par un abandon de souveraineté de l'Ukraine sur les quatre oblasts orientaux. Et je peux comprendre parfaitement qu'il s'y refuse, mais la situation ne fera que empirer avec les mois qui viennent. On est au début de l'hiver, donc la situation de la population civile va encore plus s'aggraver si c'est possible. Et effectivement, la main de Washington a trouvé sa limite. La dernière mesure, enfin c'est la première mesure de coercition que Donald Trump a prise dans son deuxième mandat à l'égard des Russes, c'est de prendre des sanctions contre les deux compagnies pétrolières, Lukoil et Rosneft. Ben, parce que l'argent des ventes des hydrocarbures russes alimente l'effort de guerre. Mais, encore une fois, lorsque vous voulez contraindre un pays comme la Russie à de meilleures intentions, ça prend du temps avant que ces mesures trouvent un semblant de pression, exercent un semblant de pression sur un début de pression sur Poutine. Donc ça prendra du temps. Donc effectivement, c'est un conflit qu'il pensait pouvoir résoudre en une semaine. Rappelez-vous comment il le disait d'une façon un peu bravache. Aujourd'hui, il se heurte à un Poutine plus résolu que jamais et qui répond du tac au tac à la mesure prise par Trump contre Poutine sur Rosneft et Lukoil, eh bien en faisant cet essai de ce nouveau missile balistique à propulsion nucléaire. C'est une manière de montrer aux Américains que effectivement, que les menaces américaines ne l'impressionnent pas.
Alors, justement, il y a un autre pays que Donald Trump aime à menacer, c'est la Chine, mais Pékin semble avoir choisi la voie du dialogue avec les États-Unis et les deux pays se dirigent vers un nouvel accord commercial, et ce, même si le président américain envisage tout de même d'imposer des droits de douane supplémentaires de 100% sur les produits chinois. Peut-on croire à un apaisement dans les relations économiques entre les deux pays, ou c'est un vœu pieux, ou Donald Trump cherche autre chose?
Non, je pense que sur le plan économique, ça n'est pas un vœu pieux, et je pense que tôt ou tard, et peut-être plus tôt que tard, je ne sais pas, mais je pense qu'on aura un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, parce qu'ils y ont tous deux un grand intérêt. Les Américains, parce qu'ils doivent avoir accès aux terres rares, qui sont fondamentales. C'est un sujet d'ailleurs que Donald Trump a abordé avec les autorités malaisiennes et il a obtenu l'accès au marché des terres rares malaisiennes contre seulement 19% de droits d'entrée des produits malaisiens sur le territoire américain. Pour la Chine, donc pour l'Amérique, il ne peut pas y avoir de restrictions quant aux exportations chinoises de terres rares qui sont indispensables pour la nouvelle économie. Quant aux Chinois, qui sont pas en très très bonne posture parce que la croissance, eh bien, elle stagne, elle est plutôt atone. Les autorités chinoises parlent de 5%, mais les experts économiques tablent sur 3%, 4%, ce qui est très faible pour la Chine. Il y a également une grave crise immobilière. Et donc, pour la Chine, il est indispensable d'avoir accès au marché américain qui est, si vous voulez, l'endroit où toutes les économies mondiales viennent assurer leur propre croissance. Et la Chine ne peut pas vivre sans l'accès au territoire américain, sans l'accès au marché américain. Donc il faudra de toutes les façons trouver un accord, et je pense que tôt ou tard, cet accord sera trouvé sur le plan économique. Sur le plan politique, alors, parce qu'on ne discutera pas que d'économie entre Xi Jinping et Donald Trump, on va également parler d'Iran, on va également parler de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Là, je pense que ça sera infiniment plus difficile pour Donald Trump.
Alors, Isaac, juste dernière question, très rapidement. Une tournée asiatique où Donald Trump a participé à la signature de l'accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge. Le président des États-Unis envisage aussi de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. En quoi sa posture de faiseur de paix sert les intérêts américains sur la scène internationale ou bien ses propres intérêts, les intérêts de Donald Trump?
Vous savez, lorsque vous faites la promotion de la paix, ça profite à tout le monde. Ça profite aux États-Unis, bien sûr, ça profite à la région. Je sais pas, j'ai des doutes qu'il va rencontrer. Je crois qu'encore une fois, c'est l'expression de son tempérament, de son désir de sa disponibilité à rencontrer Kim Jong-un. Ça m'étonnerait que ça se fasse. Si ça se fait, je vois pas très bien quelle avancée ça pourrait avoir. Ce qui me paraît plus important avec les Chinois, c'est effectivement un accord économique et essayer de dissocier la Chine de la Russie et également faire en sorte que la Chine cesse d'aider l'Iran et tous les satellites de l'Iran. Or la Chine comme la Russie sont trop désireux de tailler des croupières dans l'influence américaine partout où l'Amérique a envie d'être prépondérante. Je pense au Proche et Moyen-Orient. Les Américains sont prépondérants. Pensez bien que les Chinois comme les Russes n'ont aucune envie de laisser toute la place aux États-Unis. Et donc ça m'étonnerait qu'ils obtiennent un quelconque gain sur ce plan-là dans ces discussions avec Xi Jinping.
Donc beaucoup de travail en perspective pour le président des États-Unis.
Certainement, il y a une chose qui est très importante.
Très rapidement.
Oui, très rapidement. C'est cette escale qui est plus qu'une escale au Japon. Au Japon, avec sa rencontre avec Sanae Takaichi, qui est l'héritière directe de Shinzo Abe, avec lequel Donald Trump avait des relations toutes particulières, parce que le Japon est en train de passer d'une philosophie de défense pacifique à une philosophie de dissuasion stratégique. Et là, ça peut être un tournant justement pour faire contrepoids avec le Japon qui s'appuierait sur l'Inde pour faire contrepoids à la Chine.
Isaac Franco, je vous remercie.
Merci à vous. Au revoir.